Merci d'être à l'écoute des programmes de VOA Afrique. Yacouba Ouédraogo, de retour avec vous pour ce bulletin d'information. Il est midi ici à Washington, 16h en temps universel. Au Nigeria, des hommes armés à moto ont tué au moins 8 personnes et enlevé environ 150 villageois dans le centre du pays, dans l'état du Niger, selon le président du gouvernement local Aminu Ndiamwe. Les enlèvements massifs contre rançon sont fréquents dans les états du nord-ouest, du centre et du nord-est du Nigeria, où des gangs armés ciblent souvent des villages isolés pour piller et enlever les habitants. Au Mali, l'armée dit avoir infligé de lourdes pertes aux djihadistes et perdu 5 hommes en repoussant une attaque dans l'ouest des combattants d'un groupe armé affilié au groupe État islamique, au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, ont mené une attaque avec l'utilisation de 2 véhicules kamikazes et des tirs d'obus contre un poste de l'armée dimanche à Mourdia, à 200 km de Bamako. Selon un communiqué de l'armée, elle fait état d'un nombre important de terroristes neutralisés. Des dizaines de blessés, plusieurs soldats maliens avaient été tués en février dans une attaque d'envergure imputée à des djihadistes dans la même localité. Human Rights Watch dit s'inquiéter des exécutions sommaires présumées après la tentative de coup d'État que l'armée de la République démocratique du Congo dit avoir déjouée le 19 mai à Kinshasa. L'ONG appelle au respect des droits humains et à l'état de droit. Son communiqué évoque 2 vidéos enregistrées par des soldats congolais et largement partagées sur les réseaux sociaux. L'une d'elles, filmée sur la rive du fleuve Congo, montre des soldats tirant sur 2 putschistes présumés désarmés, dont un qui avait sauté dans l'eau pour tenter de s'enfuir. De nombreux Sud-Africains, dans l'impossibilité de se déplacer mercredi pour voter aux législatives, ont commencé à déposer leur bulletin ce lundi. Quelques 27,6 millions d'électeurs au total sont inscrits. Plus de 1,6 million s'étaient enregistrés pour voter en amont du jour férié électoral et peuvent soit se rendre dans les bureaux de vote, soit bénéficier d'une visite à domicile pour voter ce lundi et mardi. Le pays qui a tenu ses premières élections démocratiques en 1994 organise le 29 mai des élections à fort enjeu pour le Congrès national africain. Le Parlement, fraîchement élu, devrait siéger 2 semaines après le scrutin. Ses 400 députés seront alors appelés à élire le président. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé devant des familles d'otages détenus dans la bande de Gaza que la frappe israélienne sur Rafah hier était un incident tragique. À Rafah, nous avons évacué 1 million de résidents qui ne sont pas impliqués et malgré tous les efforts déployés, un incident tragique s'est produit. Nous enquêtons sur ce qui s'est passé et nous en tirerons les conclusions, a déclaré M. Netanyahou au Parlement. Dimanche, une frappe israélienne a provoqué un incendie dans un camp de déplacés du sud de la bande de Gaza, entraînant selon les autorités de ce territoire la mort d'au moins 45 personnes. Les autorités palestiniennes et le Hamas ont accusé Israël d'avoir commis un massacre en visant ce centre pour personnes déplacées près de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. De son côté, l'armée israélienne dit avoir frappé un complexe dans lequel opéraient des potents terroristes. Le ministère israélien des Affaires étrangères, justement, a ordonné au consulat d'Espagne à Jérusalem de cesser ses services aux Palestiniens à partir du 1er juin, selon un communiqué de la diplomatie israélienne. C'est en riposte à la reconnaissance par Madrid de l'État de Palestine. La semaine dernière, l'Espagne, l'Irlande et la Norvège ont annoncé leur décision de reconnaître l'État de Palestine à partir du 28 mai, s'attirant ainsi les foudres d'Israël. Dimanche, le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Álvarez, a justifié la décision de son gouvernement de reconnaître l'État de Palestine en expliquant qu'il s'agissait de rendre justice au peuple palestinien, mais aussi de la meilleure garantie de sécurité pour Israël. La Russie a revendiqué ce lundi la prise de 2 nouvelles localités, le village de Natalilové dans la région de Donetsk et la localité d'Ivanivka dans celle de Kharkiv dans l'est de l'Ukraine. Ces 2 derniers jours, les troupes russes ont revendiqué la prise des villages de Berestové et d'Arkhangelsky, également dans l'est de l'Ukraine. Les autorités ukrainiennes ont affirmé vendredi que la progression de l'armée russe avait été arrêtée dans cette zone. La Russie grignote depuis des mois du terrain en Ukraine après l'échec de la contre-offensive ukrainienne de l'été 2023. Et pendant ce temps, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé à Madrid pour une visite officielle. L'accord de sécurité signé par l'Espagne et l'Ukraine comprend une aide militaire de Madrid d'un montant d'1 milliard d'euros, a annoncé le premier ministre espagnol Pedro Sánchez. Volodymyr Zelensky pour rencontrer le premier ministre et le président portugais, a annoncé le gouvernement lusitanien. Et pour finir, Séoul, Tokyo, Pékin ont réaffirmé leurs engagements en faveur d'une dénucléarisation de la péninsule coréenne et de la paix lors de leur premier sommet tripartite après 5 ans. C'est tout pour ce bulletin. Merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain sera dans 50 minutes.
Nathalie Barge pour vous présenter la Minute Éco sur VOA Afrique. Au Togo, 685 établissements dont 213 hôtels sont reconnus par les autorités après une opération de recensement menée par le ministère du Tourisme et de la Culture qui a permis de les déclarer en conformité avec les normes en vigueur. Sont également approuvés par les autorités des motels, auberges, maisons d'hôtes, restaurants, figurent également des bars, centres de loisirs et plus de 180 agences de voyage. La Banque africaine de développement a approuvé un prêt de 240 millions de dollars à Maurice pour la deuxième phase du programme d'appui à la compétitivité et à la résilience économique. Le programme doit soutenir des réformes pour améliorer l'environnement des affaires et une mesure pour promouvoir l'entrepreneuriat et l'agro-industrie. L'Afrique du Sud veut déposer une plainte auprès de l'OMC contre le mécanisme européen d'ajustement carbone aux frontières, risquant de lui causer un préjudice économique, selon le ministère du Commerce et de l'Industrie. La taxe carbone européenne va imposer des taxes sur les importations de produits à forte intensité de carbone à partir de 2026. Elle s'appliquera d'abord sur le ciment, l'acier, le fer, l'aluminium, l'engrais, l'électricité et l'hydrogène.
La meilleure musique et les dernières nouvelles, c'est sur VOA Afrique.
Really good things you do to make me no. This is time to take me there hold on me for sure. Baby girl, should be not these kind of things where they make my tea. And me, I understand, so your dad know like me. Baby, I won't make you know, send me there for you, God. And if like you pride me, that's the first I so see. I never tell you for nothing.
Et info pour chacun, VOA Afrique.
My next.